Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques secondes. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour votre émission littéraire. C'est effectivement Wagon Livre jusqu'à midi avec bien évidemment un nouvel invité. Et c'est une invitée qui nous accompagne aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Wagon Livre. Elle est actuellement en résidence, en fin de résidence d'écriture dans Lyon, très précisément à la Maison Jules Roy, sur la colline éternelle à Vézelay. Bonjour Corinne Chandra Diallo.
Bonjour Yannick.
Alors, comment doit-on vous appeler? Corinne Chandra? Corinne Chandra?
Ah, c'est une bonne question, mais déjà merci beaucoup Yannick de me recevoir dans cette véritable émission littéraire. Je suis très honorée. Alors, mon nom à la ville est Corinne, mais c'est vrai que mon nom d'artiste c'est Chandra. Voilà.
Alors, justement, l'identité a son importance dans le roman dont nous allons parler aujourd'hui et qui a pour titre « Diane et les images » avec le sous-titre « Conte initiatique d'ici et là-bas » paru aux éditions La Renaissance. C'est une maison d'édition installée au Québec qui diffuse. C'est un rediffuseur.
Les éditions Renaissance sont à la fois en France et au Québec. Le volet compte d'éditeur est vraiment en France. Et par contre, la partie Québec édite à compte d'auteur.
Diane et les images, c'est le titre donc. Alors, c'est un deuxième livre. Il y en a eu un auparavant. Je ne voudrais pas lui faire trop d'ombre, mais un petit mot de présentation sur votre premier texte.
Avec plaisir. Donc, le premier texte s'appelle « Journal d'un éveil ». Voyage, c'est un récit de voyage à l'ashram de la paix suprême. Donc c'est un voyage en Inde, c'est mon premier voyage en Inde. Et j'ai tenu un journal pendant ce voyage. Et donc j'ai vécu des choses tellement extraordinaires et ça a été un tel point de bascule dans ma vie que j'ai vraiment ressenti l'envie de le publier. Et finalement, ça a plu à un éditeur. Alors, c'est un autre éditeur. Ce sont les éditions Unicité. Et où je fais c'est un pas à pas, en fait, la découverte à la fois de ce pays et dans ce lieu où se côtoient des nations de partout. Et en même temps, des expériences intérieures extraordinaire et des expériences aussi d'auto-guérison parce que les énergies dans ce lieu étaient tellement élevées que mon corps a commencé à entamer un processus de nettoyage, de guérison, d'expansion et pour moi j'ai même eu peur parce que j'étais toute novice là-dedans et en même temps j'ai connu des moments de grâce inoubliables.
Transformée
complètement. Transformé complètement avec vraiment l'Inde, on sait que c'est quand même le pays des yogis, des mystiques aussi. Et moi, j'étais pas spécialement dans un chemin conscient à ce moment-là. Enfin, je démarrais un petit peu. J'avais rencontré ce qu'on appelle des néo-chamans urbains. Et j'étais assez sceptique par rapport à tout ça, je découvrais. Et suite à un rêve, néanmoins, j'ai suivi mon cœur parce que j'ai rêvé de ce lieu et du maître de ces lieux. Et j'ai décidé de partir, je me suis complètement lancée à l'aventure. Et alors, j'ai vécu des grandes expériences.
On aura sans doute l'occasion de reparler de ces grandes expériences, de certaines personnes qui ont un pouvoir de guérison, des pouvoirs de vision. C'est le cas notamment d'une femme absolument remarquable qui est au cœur de votre roman, dont je rappelle le titre, Diane et les images. Vous-même, peut-on dire, Chandra, que vous avez été lors de ce séjour en Inde, initié au chamanisme ? Alors, une approche ou c'est prétentieux ? Vous restez modeste, humble ?
Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est juste que, bon, déjà, le mot chamanisme, je ne crois pas que ça se prêterait vraiment à ce lieu. Comment expliquer ça ? C'est vraiment une initiation à soi-même, en fait. Parce qu'au final, et encore aujourd'hui, je peux dire que je ne me connais pas. Je pense que personne ne se connaît vraiment. Mais ce qui est fabuleux, c'est de se lancer justement dans cette aventure de la connaissance de soi. Et c'est là qu'on découvre qu'en fait, on est beaucoup plus, à la fois beaucoup plus vaste que ce qu'on croit et qu'on est, en fait, on quitte le domaine du je et du moi pour entrer dans le mystère que l'on est, quoi. Ouais. Et je pense que c'est un début d'initiation à ça.
Bon, en tout cas, merci de rappeler que nous sommes tous des mystères. Exactement. C'est assez enchanteur et prometteur aussi. Finalement, il faut chercher et rencontrer l'autre comme un mystère. Alors, voilà. Il faut l'aborder, il peut être énigmatique, l'approche peut être compliquée, mais terriblement, j'allais dire, envoûtante et séduisante.
Exactement, c'est la grande aventure humaine, je pense.
Alors, Corinne Chandra Diallo, je vous présente, parce que, ou je vous laisse le soin de vous présenter.
Alors justement, comme on était dans l'histoire de la connaissance de soi, alors tout dépend à quelle partie de mon être on s'adresse.
Alors au niveau de l'identité, alors déjà je peux dire que Corinne Chandra Diallo est un peu plurielle.
Tout à fait.
Parce qu'il y a un petit bout du continent africain en vous, dans vos veines. Il y a un peu donc du Mali, un peu du Gabon, un peu d'Italie également.
Ouais.
Mon Dieu, quel métissage.
C'est ça. C'est beaucoup de... C'est des identités plurielles. Je suis née à Paris, dans le 12e arrondissement. Je suis de nationalité franco-malienne. Mon père est malien. Ma mère est française, origine née au Congo, Congo-Brazzaville. Elle a grandi là-bas jusqu'à l'âge de 10-12 ans, avec des allers-retours avec la France avant de s'installer à l'âge de 12 ans en France. Son père était français d'origine italienne et sa mère était originaire du Gabon et du Cameroun.
Bon, que de parcours identitaires qui se sont entremêlés, croisés et dont vous êtes le fruit ?
Exactement.
Alors vous êtes diplômée de Sciences Po de Paris et de l'EHESS.
Oui.
Vous êtes enseignante, professeure d'histoire-géographie.
Ouais.
Vous avez aussi beaucoup travaillé avec des classes relais, c'est-à-dire des élèves en grande difficulté, ceux qui sont un peu parfois déconnectés des structures scolaires et familiales aussi, un public difficile, d'adolescents compliqués.
Exactement. Ah, ça, je l'ai fait pendant 2 ans, mais avant ça, pendant 8 ans, j'ai travaillé aussi comme coordonnatrice en réseau d'éducation prioritaire dans des quartiers effectivement défavorisés, enfin à Paris. Et mon rôle était de faire le lien de la maternelle à la troisième et d'aider les équipes à mettre en place des projets pour motiver les élèves et aussi pour motiver les équipes et pour répondre aussi à des problématiques spécifiques au territoire.
Enseignante, nous l'avons dit, également donc auteur, un troisième livre en préparation dont une partie a vraisemblablement été écrite au cours de cette résidence d'écriture à la Maison Jules Roy à Vézelay, site du département de l'Yonne, je le rappelle. Et puis
exactement,
nous avons le plaisir, Chandra, d'être tous les deux exceptionnellement, la maison étant fermée le jour où nous enregistrons, nous sommes dans les jardins de la Maison Jules Roy. La basilique Sainte-Marie-Madeleine est tout proche de nous et nous sommes au sommet de cette colline éternelle. N'est-ce pas formidable ?
On est vraiment dans un lieu paradisiaque avec à la fois un jardin de paix au pied de cette merveilleuse basilique et en même temps devant nous, on voit les collines du Vézélien verdoyantes. C'est vraiment une chance inoubliable et j'en profite pour exprimer ma gratitude à toute l'équipe départementale qui m'a ouvert ses portes, à Thierry Léonard qui organise cette résidence, à Gérard Bonnot aussi qui est l'agent d'accueil de la maison, et à Jules Roy, puisque c'est cet écrivain qui a décidé de transmettre sa maison pour permettre à des écrivains, à des artistes de venir effectuer des résidences en ces lieux.
et en guise de parasol, un marronnier rose qui nous abrite et qui écoute notre échange aujourd'hui diffusé sur l'antenne de Radion. Chandra, vous êtes aussi compositrice-interprète. Samedi dernier, pratiquement sous ce marronnier rose, vous étiez accompagnée. Alors, il y avait Emilio Bisaya et Shyamal Mehta.
Exactement.
Deux camarades. Vous formez un trio sous le nom du Néferti Orchestra et vous avez interprété, alors vous chantez, vous jouez d'un instrument, donc d'une harpe, une gombi.
Voilà, c'est le Néferti Chandra Orchestra.
Ah, j'avoue, Néferti Chandra Orchestra.
Effectivement, vraiment l'une des originalités de cette formation, c'est qu'on joue avec Emilio des harpes africaines qui s'appellent Ngombi et qui se jouent depuis la nuit des temps. Ce sont des harpes naviformes, elles ont une forme de bateau et elles se jouent aujourd'hui dans les pays équatoriaux d'Afrique et austral, mais elles se jouaient aussi autrefois en Égypte. Et j'aime bien rappeler que la harpe vient d'Afrique, c'est un des legs des civilisations africaines au monde, y compris les grandes harpes des orchestres symphoniques, parce qu'on jouait de ces grandes harpes autrefois dans l'Égypte pharaonique.
Et au cours de ce concert qui était offert samedi dernier dans les jardins de la Maison Jules Roy, vous évoquiez un personnage clé et au cœur du roman intitulé « Diane et les images », Azizé. C'est un roman très féminin. Oui. Parce qu'il y a Azizé, il y a Diane, dont on retrouve le prénom dans le titre, hein, Diane et les images, et puis Hélène. Mais c'est aussi une grande histoire familiale, c'est une histoire d'héritage, c'est une histoire de séparation, c'est de la souffrance, et c'est aussi une Afrique des traditions que vous savez faire revivre et qui nous envoûte. Je vais vous demander dans un premier temps, Chandra, de nous parler de cette vieille Azizé qui est l'héritière d'une lignée royale. Alors, dans quel pays sommes-nous précisément dans le roman? Parce que c'est assez indistinct, aussi bien géographiquement parlant qu'au niveau de l'époque.
Tout à fait. Alors moi, j'ai voulu garder le flou sur l'origine géographique parce qu'on est aussi dans l'univers du conte. Et aussi parce que Azizé, elle vit dans une presqu'île qui a quelque chose un petit peu du paradis perdu, de cette pureté des origines. Et donc, un paradis perdu ne va pas avoir un nom géographique d'un état moderne, contemporain, qu'on pourrait qualifier d'artificiel. Maintenant, je peux dire, pour ceux qui sont curieux, de quel pays je me suis inspirée. Je me suis inspirée du Gabon. Qui est un petit pays. Enfin plus,
oui, il n'y a que 2 millions d'habitants au Gabon, dont la capitale est Libreville, je le rappelle.
Voilà, bravo. Et où il y a énormément, les gens ont gardé des traditions très très fortes. Hein, c'est petit, mais par contre c'est un concentré civilisationnel en termes de traditions. Donc c'est un pays très intéressant. Qu'on ne connaît pas forcément parce qu'il n'est pas touristique. Il est surtout connu pour son pétrole et malheureusement aussi pour la mainmise de la France sur cet état. Mais quand on va au-delà des apparences, on peut se rendre compte que c'est un pays où les traditions sont encore très vivantes.
Alors justement, vous parliez de cet Éden où habite oui. Azizé. Elle habite une très jolie maison où d'ailleurs... au cours des soirées, elle accueille, elle cuisine, elle partage, elle est dans la générosité. Vous dites d'ailleurs dans le roman qu'elle est une mère, pas un océan, une maman universelle au service de tous. Et je vais vous demander, Chandra, de lire le passage où l'on découvre l'univers flamboyant à la nature généreuse où habite Azizé.
C'est une belle demeure en bois blanc, ornée de bougainvilliers et d'hibiscus. Devant, il y a une véranda qui donne sur un jardin luxuriant et sauvage. Il est peuplé de singes et de magnifiques oiseaux blancs. Leur longue queue argentée ondule comme un serpent entre les branches. Grand-mère dit que les arbres y donnent des fruits succulents qu'on ne trouve pas ici. Le tamarin, le safou, la badame, le corossol. Il n'y a qu'à tendre la main pour cueillir des ananas, des mangues ou des avocats gras et fondants comme du beurre. C'est un endroit magnifique au bord de la mer, tout au bout d'une presqu'île. Il n'y a pas de voiture, on n'entend que le bruit des vagues, le vent et les cris des enfants qui jouent. Là-bas, tout pousse sans effort parce qu'il pleut beaucoup et qu'il fait chaud toute l'année.
Merci Chandra, pardon, je vous ai un peu coupé, mais je voulais partager avec nos auditrices et auditeurs ce paradis africain, sauvage, nature luxuriante. Et c'est aussi, j'allais dire, un retour à l'harmonie dans le respect de la nature, du droit des animaux. Il y a aussi, c'est un conte aussi, il y a forcément un pouvoir allégorique du récit, d'une part, et d'autre part, une morale que chacun doit déceler, mais que l'on découvre tout de même très aisément à travers le parcours d'Azizé.
Oui, parce que Azizé va devoir quitter ce paradis et où elle se sent très bien, où elle est aimée de tous, où elle est très utile parce que c'est une guérisseuse. Et comme vous l'avez très justement noté tout à l'heure, c'est une sorte de mère universelle. Donc elle est essentielle à cet écosystème. Elle est une incarnation d'une mère divine. Voilà. Mais elle va devoir le quitter et se sacrifier parce qu'elle elle est appelée. Oh là, désolée. C'est ça le paradis terrestre, mais parfois là-bas il y a des moustiques et ici on a des moucherons qui viennent dans les yeux. Donc elle doit quitter cet endroit pour aller sauver deux jeunes filles en souffrance.
Et là, on va marquer un premier intermède musical parce que vous avez posé effectivement l'intrigue qui est au cœur de Diane et les images, sous-titré « Contes initiatiques d'ici et là-bas ». Si vous le voulez, Chandra, on écoute Pierre Perret, Ripilé, et on se retrouve juste après pour continuer notre échange. Je rappelle que c'est Corinne Chandra Diallo qui a un petit moucheron dans les yeux, hélas, qui est venue la taquiner, qui nous accompagne jusqu'à midi sur Radion. Elle est en résidence d'écriture à Vézelay, à la maison Jules Roy, jusqu'à la fin de ce mois de mai. Merci d'être avec nous, on se retrouve juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
Dans la douceur du soir, à l'heure de l'espoir, quand les bêtes vont boire, et le sein fleurit d'une goutte de lait, arrose le palais d'un enfant qui sourit. C'est le chant du ripilé, ripilé, ripilé. C'est le chant du ripilé, ripilé. Elle pile le riz et son long cou d'ébène, et luisant de petit ruisselet de sa peine. Africa. Le geste rythmé du pilon en colère fait danser son collier de petits bouts de fer. C'est le chant du ripilé, ripilé, ripilé. C'est le chant du ripilé, ripilé. Elle pile le riz, ici rien n'a changé. Chaque perle de pluie s'en va aux étrangers. Et pour ses petits, la carangue séchée que son bonhomme a pris fera quatre bouchées. C'est le chant du ripilé, ripilé, ripilé. C'est le chant du ripilé, ripilé. Elle file le riz et il coule de l'eau, mais ses yeux de cabri n'endiguent pas le flot. Elle supportera dès le prochain été tout le poids de son ventre à nouveau habité. C'est le chant du ripilé, ripilé, ripilé. C'est le chant du ripilé, ripilé.
Payez, payez.
l'air tumatisé, quand retentit le cri des fillettes excisées. Elle revoit surtout ses frères indifférents, quand s'écoulait le sang inondant ses genoux. C'est le chant du ripilé, ripilé, ripilé. C'est le chant du ripilé, ripilé. Elle pile le riz près des blocs de béton, de la cotonnerie où il n'y a pas de coton. C'est aux messieurs blancs qui soulagent la misère en tirant l'éléphant de leur hélicoptère. C'est le chant du ripilé, ripilé, ripilé. C'est le chant du ripilé, ripilé. C'est le chant du ripilé, ripilé, ripilé. C'est le chant du ripilé.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous retrouvons notre invitée Corinne Chandra Diallo que nous avons rencontrée à la maison Jules Roy où elle termine dans une semaine sa résidence d'écriture. Elle est l'auteur de Diane et les images. Un roman qui a reçu un prix et pas n'importe quel prix, Chandra. Peut-être faudrait-il en parler.
Oui, il a reçu le prix Union Européenne du premier roman à la rentrée littéraire de Bamako.
Alors bravo, et j'imagine que Merci. Ce prix vous a fait très plaisir et que l'Afrique aussi oui. était très heureuse, je pense.
Oui, ça m'a fait très plaisir et c'était une joie aussi évidemment pour ma famille qui se trouve au Mali. Mon père étant en plus amateur aussi de littérature. Ça s'est passé en 2020 pendant le premier confinement, donc j'ai pas pu m'y rendre, mais ça a été, ouais, c'était une joie, c'est vrai.
Alors revenons à notre personnage d'Azizé. Azizé pratique la divination par l'eau marine. Elle est Azizé aimée de l'océan. Et en fait, un jour, elle a des petites pirogues. Et à l'intérieur de ces toutes petites pirogues, lui apparaissent les visages de deux jeunes filles qui lui sont inconnues. Mais ce sont, ce sont les images d'Azizé.
Voilà, c'est-à-dire que Azizé, quand elle pratique sa divination, elle met de l'eau de mer dans des petites pirogues en bois. Et à partir du reflet de l'eau, elle voit des choses et c'est ce qui lui permet de pratiquer la divination pour les gens qui viennent la voir, puisqu'elle est guérisseuse.
Et il y en a qui viennent de l'étranger même la consulter.
Voilà, parce qu'elle est très réputée, elle est vraiment une très grande guérisseuse et une très grande devineresse. Et donc, même des chefs d'État viennent la voir.
Et ces guérisseuses existent réellement ?
Alors oui, dans ces régions-là, les guérisseurs, on les appelle les Nganga. Mais bien sûr, il y a, comme partout, dans toutes les cultures ancestrales, il y a des guérisseurs et des guérisseuses. Sauf que moi, j'ai inventé la façon dont elle procède, parce que pour moi, c'est un personnage qui a une façon de procéder qui lui est absolument unique. Elle a reçu ce don d'être très reliée à l'océan. Donc, tout ce qu'elle fait, elle le fait avec les eaux marines, avec les coquillages. C'est vraiment sa particularité. Je ne sais pas s'il existe des guérisseurs des océans, ça je l'ai complètement inventé. Peut-être que ça existe. Je me suis rendu compte, en fait, après coup, effectivement, qu'il existait une forme de divination comme ça, avec des barquettes. Moi, je l'ai trouvé dans mon inconscient, mais il me semble que quelqu'un m'a dit « mais oui, ça existe ». Mais voilà, je ne suis pas allée me documenter. Moi, je préfère inventer les choses.
Alors, la prière a du sens. Mais la prière d'Azizé est particulière, elle est multiple. Vous écrivez, page 89, « Azizé pria à la façon dont on prie dans la presqu'île, c'est-à-dire là où elle habite sur une presqu'île, par la danse, par le chant, par le geste et par le cri, par les pleurs et par le rire. »
Oui. Là aussi, j'ai voulu que mon personnage soit très vivant Et c'est ce que j'avais remarqué aussi dans beaucoup de cultures africaines, pas dans toutes, hein, l'Afrique est un continent, c'est immense, mais qu'il y a quand même une approche très vivante et incarnée de la spiritualité, par opposition, je dirais, par exemple, à une messe en Occident, où on va être très figé, où parfois, moi, ça me donne une impression d'enterrement. C'est pour ça que j'ai voulu mettre en avant cette façon, ce rapport à la prière qui est beaucoup plus vivant, où on s'autorise aussi à pleurer ou à crier ou à rire, à exprimer la joie, à danser. Voilà.
En tout cas, Azizeh, dans le roman, c'est une vieille femme, c'est une femme âgée.
Très âgée, oui.
Et l'on apprend qu'elle a, comme chaque être humain, elle a un passé. Et elle a une blessure. On peut tout de même en parler de cette blessure.
Oui,
parce qu'elle n'est pas anodine. Et elle rappelle aussi le passé colonial de la France.
Exactement. Et pas que de la France.
Oui, puisqu'il y a eu des Belges, des Allemands, des Italiens, voilà, en Afrique.
Voilà. Et effectivement, il y avait pendant la colonisation, il y avait ce qu'on appelait les épouses coloniales. Et souvent, c'était des femmes avec qui les colons se mettaient temporairement, le temps de leur séjour en fait dans les colonies. Et il arrivait qu'ils aient une femme officielle en métropole et une femme coloniale, voilà, en colonie. Et donc, j'ai voulu rappeler ce phénomène qui, évidemment, n'a pas été sans laisser des traces.
En tout cas, il y a eu des unions qui ont donné vie à des métisses.
Exactement. Et dans certains cas, ces métisses avaient un statut particulier dans la société. Et certains pouvaient être mis aussi dans des pensions, dans des orphelinats, et devenir ensuite des sous-cadres de l'administration coloniale, donc des intermédiaires, des couches intermédiaires entre les colons et les populations indigènes. Et c'est une histoire très complexe qui a aussi évidemment ses aspects douloureux. Et dans le cas d'Azizeh, c'est plutôt vécu d'une manière douloureuse.
Et Azizeh a eu donc un petit garçon avec cet officier français qui l'a trompé, en fait, puisque, en plus, Azizeh est de lignée royale.
Voilà.
Donc, il y a un mariage officiel, ritualisé, la dot est discutée, et cette femme est trahie, et la pire des choses, c'est que le petit garçon qui était né de cette union avec cet officier français lui est confisqué, puisque le militaire français lui ravit cet enfant.
Exactement.
Et part, et elle se retrouve seule, meurtrie, au bord du suicide, pratiquement.
Tout à fait. Alors Azizeh n'est pas du genre à se suicider.
Non.
Mais elle est plutôt du genre à se laisser mourir. Et c'est pour ça qu'elle tombe très gravement malade et elle va être sauvée grâce à sa famille qui va l'emmener en forêt où se trouvent de très très grands guérisseurs et chez un peuple pygmée en fait qu'on appelle les Simba. Et c'est là qu'elle va être non seulement soignée, mais surtout initiée à elle-même, à qui elle est vraiment. Son heure n'est pas venue, parce qu'en réalité, Azizeh est venue sur Terre avec ce qu'on peut appeler des missions de vie. Donc elle ne peut pas mourir maintenant, parce qu'elle est amenée à soigner les gens, elle est amenée à faire beaucoup de bien autour d'elle. Donc cette maladie, cet incident, en fait cet accident même de vie, va la mener à se découvrir elle-même et à découvrir ses dons.
Néanmoins, elle est privée de cet enfant qui lui a grandi quelque part.
Exactement.
Alors que peut-on raconter pour susciter l'intérêt du roman qui est très, très vif? Je vous ai dit tout le grand plaisir que j'ai eu à le lire. Et comment faire gonfler le suspense sans trop dévoiler l'intrigue?
Ouais, c'est ça, je compte sur vous pour ça, parce que vous avez prononcé le mot suspense. Et c'est vrai que j'ai eu envie aussi qu'il y ait un côté un petit peu polar, un peu suspense.
Oui, parce que c'est une enquête qu'elle mène.
Exactement.
Elle veut retrouver ce petit garçon qu'elle a perdu alors que le garçonnet avait 4 ans. Et 50 ans plus tard, elle le retrouve.
Mais... va-t-elle le retrouver ou ne le retrouvera ? Voilà, c'est la question qui est posée et j'ai tenu à garder cet effet de suspense parce que aussi c'est le côté envie de lire, amour de la lecture. C'est un peu construit comme un puzzle. Au départ, on voit Azizé dans son monde et on voit un autre monde qui n'a rien à voir avec deux jeunes filles en déshérence et on comprend
pas trop.
Deux adolescentes.
Meurtries elles aussi.
Et on comprend pas trop le lien et petit à petit c'est comme un puzzle et on va comprendre petit à petit quels sont les liens, quel est le rapport et comment Azizé va partir en quête effectivement de ce fils qu'elle a perdu 50 ans auparavant. Alors le retrouvera-t-elle? Oui ou non, comment va-t-elle procéder? C'est tout son voyage et voilà, c'est toute une aventure en fait.
C'est une odyssée d'une certaine manière.
C'est une odyssée, exactement.
On va, si vous le voulez bien, Chandra, marquer un nouvel intermède musical. On se retrouve juste après. Je rappelle le titre du roman de Corinne Chandra Diallo, Diane et les images, conte initiatique d'ici et là-bas, qui a reçu donc le prix du premier roman de l'Union européenne en 2020, très précisément. Le roman est disponible, on peut le commander chez son libraire ou alors aller sur le site des éditions Renaissance. On se retrouve dans quelques minutes avec notre invité. Merci d'être avec nous, c'est Wagon Livre sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Toujours avec notre invitée Corinne Chandra-Diallo en résidence d'écriture à la Maison Jules Roy jusqu'à la fin de ce mois de mai 2022. Diane et les images, c'est le titre de son deuxième livre. On attend le troisième avec curiosité et impatience. Une partie de ce troisième livre aura été rédigée ici, sur la colline éternelle, dans l'Yonne. Nous parlions avant la pause musicale de Azizé, qui a donc eu un petit garçon avec un militaire français qui l'a trahi et qui lui confisque cet enfant lorsque le garçon a 4 ans. Et Azizé a le souvenir de moments tendres, symboliques, puissants aussi, lorsqu'elle était avec ce petit garçon et qu'elle partageait avec lui la richesse et les beautés de l'océan. Chandra, je vous laisse lire le passage.
Elle se revit qui sillonnait les dunes, tenant son petit garçon par la main ou l'amarrant dans ses pagnes quand il se fatiguait. Elle aimait sentir le poids de son fils, son corps chaud et confiant dans son dos. Elle sentait quand il s'endormait au gré de son balancement de frégate, sa tête lourde tout contre elle, dans une absolue sécurité. Il s'éveillait d'un coup, plein d'entrain, impatient de courir dans les dunes, de faire gicler l'écume sur ses jambes vigoureuses. Elle pouvait passer un temps infini à le contempler. Elle lui murmurait des mots d'amour fou qu'elle égrenait comme des perles, les noms qu'elle inventait pour lui et qui se perdaient dans les embruns. Houle du matin, sel de mer, vent du large, petit oursin, fils des eaux, et, le plus souvent, Ndandae, avec ce parler chanté incomparable des gens de la presqu'île. Elle plongeait son visage dans son cou, qui sentait, délicieuse, la chair de bébé, le lait frais et les huiles de coco qu'elle fabriquait elle-même pour le masser délicatement. Il était toujours propre et habillé comme un petit roi. Elle composait pour lui des chants marins qu'elle laissait filer dans les vagues avec son talent de diseuse, mille et une histoires pour le faire rire ou l'endormir. Nul autre qu'elle n'avait le droit de s'en occuper. Les femmes la critiquaient. Elle s'en fichait éperdument. « Ma fille, tu aimes trop ton fils, tu es trop gentille avec lui, tu dois nous confier l'enfant. Si tu continues comme ça, il va avoir des problèmes, nous ne sommes pas d'accord. » Elle n'en avait que faire. « Nous allons réunir le conseil de famille. Si tu continues, nous te prendrons l'enfant. » Elle n'écoutait personne. Quels étaient les souvenirs de l'homme qui venait de quitter la pièce, celui qu'on appelait Jean Meunier? Que restait-il de ces instants bénis? Elle espéra désespérément qu'il avait au moins conservé d'elle l'amulette de cuir qu'elle lui avait confectionnée et surtout la zigida de perles sauvages qu'elle avait placé autour de sa taille.
Merci Corinne Chandra-Diallo pour la lecture de ce très beau passage d'amour complice entre une maman et son jeune enfant. La zigida, qu'est-ce donc une zigida? Alors il faut dire qu'il y a un petit lexique à la fin du roman et que zigida y figure, mais petite explication lexicale.
Ben oui, alors comme c'est dit là dans le passage, c'est une ceinture de perles et c'est vrai que les femmes peuvent la mettre pour affiner la taille et aussi parce que c'est esthétique, donc ça souligne les charmes féminins, mais c'est aussi une protection. Et donc Azizé a mis cette zigida à la taille de son fils pour le protéger.
Il doit avoir de la chance, cet enfant, d'avoir une mère guérisseuse, un peu sorcière, un peu magicienne. Mais il n'aura malheureusement pas l'occasion d'en profiter longuement.
Oui, parce que comme on disait tout à l'heure, le capitaine, le mari blanc d'Azizé, qui s'est quand même entiché de son fils, même s'il a fait un mariage trompeur, décide de partir avec lui et de repartir en métropole avec lui et lui arrache son enfant.
Sorcière est un adjectif important. Il y a d'ailleurs un chapitre du roman qui a pour titre « La cuisine sorcière », parce que Azizé, tout comme vous, a plus d'une corde à son arc ou plus d'une corde à sa harpe. En tout cas, c'est un roman sur la situation des femmes également. Il y a tout de même une cause féminine au cœur de ce roman.
Absolument.
Azizée a été une femme trahie, délaissée par un homme. Mmh. Et puis il y a nos deux adolescentes qui sont apparues, elles ont 13 et 17 ans, qui sont apparues à Azizée dans cette petite pirogue qui lui renvoie des images. Je rappelle le titre du roman, Diane et les images. Alors Diane, l'héroïne de 17 ans, elle est aussi meurtrie par une histoire et un parcours familial. On ne va peut-être pas trop en dire, mais ce sont des jeunes filles qui doivent se réconcilier avec la vie, leur avenir et leur développement personnel.
Tout à fait, tout à fait. Donc c'est effectivement une histoire de femme à ce niveau-là, mais...
Je ne dis pas que les hommes n'ont pas le bon rôle, mais les figures masculines sont rares ou secondaires.
Dans ce roman, oui, c'est vrai. Et c'est vrai, on peut dire que dans ce roman, en tout cas, les rôles masculins ne sont pas trop positifs, c'est vrai. Ça, il faut le dire.
Ou alors, le père des deux jeunes filles, pardonnez-moi, Chandra, incarne une espèce d'autorité silencieuse. Et il est question du bureau sanctuaire où les deux filles n'ont pas spécialement le droit d'entrer. Quand elles y entrent, c'est une sorte de tribunal. C'est là qu'elles sont punies par une forme d'isolement dans un orphelinat catholique, mais sur décision autoritaire du père. Et puis la maman, elle est faible, elle subit l'autorité de ce mari. Et il est question aussi un petit peu de la lâcheté des adultes et du mensonge. Il y a le thème des mensonges des adultes.
Tout à fait. Tout à fait.
Et c'est une thématique très intéressante parce qu'à un moment, Diane dit « je découvrais le mensonge » et elle-même s'insurge. C'est aussi quelque part une rebelle. Et c'est cela qui va la sauver. C'est parce qu'elle se révolte contre une forme d'autorité et surtout de silence, de secret familial qui est préservé. On sait les choses, mais on ne veut pas les désigner, on ne veut pas les nommer et surtout, pas de bruit, on n'en parle pas.
Oui, comme dans beaucoup de familles, il y a des secrets familiaux qui vont du coup peser sur les générations suivantes. Et souvent, comme c'est le cas souvent, ça va être dans la génération suivante la personne peut-être la plus sensible qui ne se soumet pas, qui va faire voler les choses et qui va permettre la guérison. Et donc on va découvrir qu'il y a un secret de filiation qui relie directement cette famille à Azizée, et qui a un autre secret qui est le mal qui a été fait à la petite sœur, et que Diane vit comme si ça l'avait atteint elle-même personnellement, et en même temps elle ne peut pas confier ça aux parents parce que justement elle a des parents quelque part trop fragiles pour pouvoir accepter la vérité. Donc c'est à la fois un personnage très fort, elle a énormément de puissance en elle, mais aussi une grande fragilité. Et cette puissance, c'est cette puissance, cette capacité d'amour. Que ce soit Azizée ou Diane, en fait, le chemin de résilience va passer par l'amour. Et donc, Azizée, c'est cette capacité d'amour qui lui a permis de surmonter son chagrin et de devenir, du coup, une maman universelle. Et Diane, son amour s'exprime dans la rébellion. Mais au final, c'est cet amour rebelle qui va lui permettre de prier avec véritablement ses tripes. Et cette prière va arriver jusqu'à Azizée. C'est ça.
Le temps passe très vite. On écoute un morceau que nous proposons à nos auditrices et auditeurs. Et un morceau que vous connaissez bien, Chandra. Je vous laisse le soin de nous le présenter.
Oui, ça s'appelle « Mon corps, un chemin ». Et c'est une ode à la terre-mère, à la nature, mais perçue sous une forme féminine, justement. Donc je pense que ça va bien avec le roman.
Et vous en êtes l'auteur et compositrice.
Exactement.
On se retrouve.
Et je le chante.
Merci Corinne Chandra Diallo de partager.
Avec, je tiens à préciser, Emilio Bisaya également aux autres instruments.
Et on se retrouve avec vous juste après pour conclure, parce que le temps passe très vite. Ouais. Je rappelle le titre de votre roman, Diane et les images, sous-titré « Contes initiatiques d'ici et là-bas », disponible aux éditions Renaissance. C'est distribué en France et au Québec.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Corinne Chandra Diallo, on est à la fin de ce numéro de Wagon Livre. Je rappelle que vous aussi, vous êtes à la fin de votre résidence d'écriture à la Maison Jules Roy à Vézelay. Revenons à Diane, qui donne son prénom au titre de votre roman, Diane et les images. Diane est l'héritière, elle est dans l'ombre de Azizé, elle est une héritière.
Tout à fait.
Elle aussi, elle va vraisemblablement irradier d'autres êtres humains de son amour, de ses pouvoirs.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est aussi une histoire de transmission. Une transmission de grand-mère à petite-fille. Et Diane, en fait, au départ, ne sait pas qui elle est. Elle a des dons, elle est traversée par des images qui viennent plutôt la perturber suite à ce qui s'est passé pour sa petite sœur.
Des cauchemars,
à la fois quand elle dort, mais aussi quand elle est éveillée. C'est ça la particularité, parce qu'en fait, elle a en quelque sorte des dons de médium, on dirait canal aujourd'hui, mais elle est traversée et elle ne sait pas quoi faire de toutes ces visions, de toutes ces forces qui la traversent. Parce qu'il lui faut une sorte d'initiation pour pouvoir transformer ces choses à l'état sauvage en dons. et pour savoir les dompter et les utiliser à bon escient.
En tout cas, c'est amusant dans son enfance, notamment dans les étés, au cours des étés passés chez ses grands-parents. Alors, elle mange de la terre, elle guérit certaines de ses blessures avec du pipi. C'est assez amusant. Alors, c'est l'enfance, mais elle exploite quand même quelque chose qui peut paraître étrange, un peu magique. Et surtout, c'est qu'elle doit résister à l'assaut des images. En fin de compte, sa puissance lui vient, alors autant Azizé, puis son énergie, sa force de l'océan, et Diane, elle, la puissance lui vient de la forêt.
Oui, Diane, comme son nom l'indique, hein, c'est pas un hasard, est plutôt une fille de la forêt, et Azizé est une femme de l'océan. Tant qu'elle est enfant, Diane n'a pas de problème avec ses dons. Parce qu'elle a encore la simplicité, la spontanéité de l'enfance, elle est encore à l'état sauvage, elle est naturelle en fait. Mais c'est le conflit entre l'éducation et ses dons qui va commencer à poser problème, plus le gros traumatisme qui est arrivé à sa petite sœur.
En tout cas, gravité des thèmes abordés tout de même dans le développement de ces adolescentes, ce qu'elles ont vécu est un trauma. C'est indéniable, mais il y a un optimisme.
Il y a une forme de résilience, ce sont des parcours de vie et ça se finit.
Alors résilience, je vous interromps un peu, oui. Résilience, mais Azizé va contribuer à redonner du sens à la vie, notamment de la petite Hélène qui est brisée par ce qu'elle a vécu.
Ah oui, moi je tenais à montrer l'art des guérisseuses. La subtilité des guérisseuses, et Azizé en est une, et l'art des guérisseuses, c'est d'intervenir à plein de niveaux différents. C'est une forme de soins holistiques, et elle a la capacité à faire un soin sur mesure.
En tout cas, Diane et les images, votre second roman, Corinne Chandra Diallo, disponible en librairie.
Second livre, mais pas second roman.
Second livre, oui. Le prochain livre
sera un roman. C'est le deuxième volet, en fait, des contes initiatiques d'ici et là-bas.
Et on retrouve des personnages.
On va retrouver Diane et Azizé.
Et je rappelle aussi qu'à la fin de votre roman, il y a un petit lexique où l'on apprend ce qu'est le safou, qui est un fruit de l'Afrique tropicale. Bon, le ganga, ça, vous l'avez dit. Ceux qui ont écouté l'émission savent ce qu'est la badame. Ah, qu'est-ce qu'un chabin ou une chabine? On va terminer sur...
Ah oui, alors là, j'ai beaucoup été influencée par les auteurs créoles, même dans ma manière d'écrire. Hein. Les confiants, les chamoiseaux. Et donc, dans le monde créole des Antilles, il y a toute une classification selon la couleur de peau. Donc les chabins sont plutôt très clairs, donc ça qualifie en fait une couleur, une forme, un métissage très très clair.
Chère Corinne Chandra Diallo, moi je voudrais vous remercier personnellement du bonheur de lecture que vous m'avez offert à travers Diane et les images, et je voudrais vraiment que notre échange ait suscité le désir chez celles et ceux qui nous ont écoutés de se procurer votre roman et de se plonger aux côtés de Azizé, d'Hélène et de Diane, ces trois femmes, presque trois grâces d'une certaine manière, dans cette superbe histoire africaine, avec des relents de l'histoire coloniale française, de l'émotion, de la souffrance, mais un terrible soleil optimiste qui nous irradie. Et je vous ai dit que quelque part, ayant lu très rapidement votre roman, enfin j'espère minutieusement, mais rapidement, tellement j'avais hâte d'en découvrir l'issue, combien ce roman m'a donné de l'énergie. J'ai ressenti quelque chose.
Waouh, ben merci Yannick.
Mais je le pense, ça m'a procuré un bien-être à travers le parcours de ces femmes, plus les décors, les odeurs, la cuisine, tout cela fait de votre texte une œuvre gourmande, savoureuse, un vrai plaisir complet.
Waouh, ça fait plaisir. Moi, j'en suis ravie. Yannick, déjà, merci infiniment de m'avoir reçu dans votre émission. C'est vraiment un plaisir à moi d'avoir pu partager grâce à vous avec les auditeurs ce moment. Et c'est vraiment le plus beau compliment. Enfin, si les livres doivent apporter quelque chose, ils peuvent apporter un bienfait, faire voyager, enchanter. Enfin voilà, moi, c'est tout ce qui fait du bien. Ça me fait extrêmement plaisir.
Merci à vous, Corinne Chandra-Diallo, de nous avoir accueillis dans les jardins de la maison Jules Roy, de nous avoir accordé du temps. Je vous souhaite une excellente fin de résidence d'écriture dans Lyon, à Vézelay précisément. Et je recommande Diane et les images de notre invité aujourd'hui dans Wagon Livre aux éditions Renaissance. Avant de nous séparer, et je ne serais pas complet si je ne le mentionnais pas, vous avez la possibilité de rencontrer notre invitée Corinne Chandra-Diallo dans une semaine. Notez bien ce rendez-vous samedi 28 mai prochain à 17h dans les jardins de la maison Jules Roy à Vézelay, puisque Corinne Chandra-Diallo donnera une conférence qui a pour thème « Archétype féminin sacré de Marie-Madeleine à Rada la ravissante ». Voilà, notez bien ce rendez-vous samedi 28 mai prochain à Vézelay, maison Jules Roy, à partir de 17h. Et puis pour ma part, je vous donne rendez-vous samedi 28 mai, mais cette fois-ci à 11h sur l'antenne de Radion, pour vous proposer un entretien avec la chanteuse et romancière Olivia Ruiz, qui fait paraître son deuxième roman aux éditions Jean-Claude Lattès, second roman intitulé « Écoute la pluie tomber », Olivia Ruiz qui sera mercredi 25 mai prochain l'invitée du Club des écrivains de Bourgogne au Grand Hôtel de la Cloche, place d'Arcy à Dijon. Merci Chandra, au plaisir de vous lire. On attend le prochain roman. Et bonne fin de résidence d'écriture et un bon congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir.
Merci Yannick, au revoir.